l'existence d'un autre fils. D'autant plus que le décès de Dino ouvre la voie au scandale, à la reconnaissance du fils né hors mariage et pour finir, à son arrivée dans le capital de l'entreprise. Autant de points qu'il était délicat de rapporter à Laura. Mais à force de retarder l'échéance, à manquer de cran ou de courage, Enzo vient de se faire pincer. Sa femme a fini par découvrir le poteau rose. La guerre qui s'ouvre pour Enzo, autant que pour sa marque, s'annonce absolument désastreuse. Lorsque son épouse le met devant le fait accompli, l'industriel ne se débine pas. Oui, oui, il est amoureux de Lina Lardi. Oui, Pierrot est son fils. Laura, évidemment, est abasourdie. Son caractère volcanique explose, tel le Vésuve à Pompéi, et la lave dévore tout. Celle qui, depuis le décès de son fils, reproche à son mari de ne pas avoir été assez présent, comprend maintenant ses absences. Il était dans les bras d'une autre. La pilule n'est pas facile à avaler. Elle est tout simplement impossible à faire passer. Elle crie dans un premier temps au divorce et réclame ses parts pour s'en aller. Oui, parce que Laura n'est pas que l'épouse d'Enzo. Elle est aussi sa partenaire à 50-50. La situation se complique dangereusement. Enzo n'a pas l'argent nécessaire pour se permettre une séparation officielle. Et sans l'accord de sa femme, impossible de sceller un accord avec des capitaux venant de l'extérieur. Il est dans l'impasse. Et sur la piste, c'est pas mieux. Avant le lancement des fameuses Mille Miglia, toutes les victoires en course préparatoire échappent à Ferrari. Maserati rafle tout. Quelques semaines auparavant, les 12 heures de Sebring, qu'Enzo voyait comme une première consécration, ont rendu un constat implacable. Le cheval cabré n'est pas prêt. Pire, Jean Béra et Fangio, dans leur Maserati, ont collé une déculottée aux équipes Ferrari. Alors qu'au décès de son fils, il avait manqué de tout arrêter, trop ébranlé par la souffrance, cet échec à Sebring le fait replonger dans une dangereuse mélancolie. Mais un empereur ne meurt jamais. Il dort. Enzo remotive ses équipes, tente d'impulser un nouveau souffle. C'est alors qu'il propulse de Portaggio au volant du bolide 351 en remplacement de l'un de ses pilotes habituels. Le résultat, on le connaît. De Portaggio se tue, ce qui en soi est une catastrophe. Mais il emporte avec lui dans la mort 9 spectateurs et son copilote. Et, comble du cataclysme, 5 enfants font partie des victimes. Enzo Ferrari va devoir rendre des comptes. Il se retrouve sous le coup d'une enquête. Des accusations le mettent en cause, lui, dans l'accident terrible de Guidi Zolo. Si les enquêteurs arrivent à prouver que les pneus étaient trop usés, l'écurie sera directement responsable. Dans le même temps, la presse se déchaîne et dévoile les premières rumeurs autour de sa double vie. Pour s'en tirer, Enzo va devoir être malin et tenter de comprendre ce qui a pu se passer, et ce, avant les autres. Il devra, si possible, prouver qu'une faute du pilote ou un incident mécanique sont à l'origine de la sortie de piste. Et vous pouvez me croire, c'est loin d'être gagné d'avance. 1957. Au bout de la nuit, Enzo Ferrari est rentré à Modène. Ses équipes d'ingénieurs s'affairent autour de lui et de ce qui fut, il y a encore quelques heures, une redoutable machine de course. Partout dans l'usine règne une ambiance mortifère. Personne ne parle. Pourtant, les usines Ferrari n'ont jamais été aussi actives. Tous les ouvriers présents, geste après geste, démonte les dernières pièces de l'épave pour tenter de comprendre. Volant, essieux, morceaux du moteur, tout y passe. Y compris les roues, évidemment. Enzo Ferrari est assis sur une chaise prostrée. Sur ses lunettes noires se reflète l'agitation qui règne. Derrière lui arrive son chef d'équipe qui, d'une voix blanche, lui annonce la très mauvaise nouvelle. Commandatore, les carabiniers arrivent de Rome. Ils veulent récupérer tous les éléments du véhicule. Enzo répond mollement d'un geste de la main. D'éclaircie, il n'y aura pas. Lui se voit déjà en prison, bouc émissaire d'un pays en deuil et qui cherche des réponses. Engrenage fou d'un rouage totalement hors de contrôle. Ferrari perd tout sens commun. Heureusement, une bonne nouvelle va lui redonner la foi. Commandatore, venez voir le pneu. Péniblement, le leader s'extirpe de son siège. Tout le monde autour de lui s'est arrêté. D'un doigt, il caresse la plaie béante, observe la gomme arrachée. En un instant, c'est l'illumination. Mais enfin, c'est une crevaison. Ferrari a vu juste. Son écurie n'est pas en cause directement dans le drame de Guidizzolo. De Portaggio a roulé sur un objet contendant, se trouvant sur la chaussée, sans pouvoir l'éviter. Impossible de savoir exactement ce que c'était, mais les faits sont là. Les déchirures dans le pneu prouvent à coup sûr que la catastrophe est due à une cause extérieure. Et comme vous pouvez l'imaginer, Enzo Ferrari va pouvoir souffler, passer tout près d'une catastrophe qui aurait pu lui coûter sa réputation tout autant que l'avenir de son entreprise. Le grand Enzo peut maintenant traverser les épreuves de l'enquête avec autant de flegme qu'habituellement. Les événements vont lui donner raison. Déjà la presse, particulièrement virulente avec lui depuis le début de l'affaire, va tout doucement se raviser et commencer à parler de méprise. Ensuite, les enquêteurs sont bien obligés de constater ce qui est une évidence. De Portaggio n'a pas eu de chance et a roulé sur un obstacle. Fin de l'histoire. L'Espagnol, lui, entre dans la catégorie des pilotes morts pour la Scuderia. Castellotti était le précédent, emporté sous les yeux de Ferrari, 2 mois plus tôt, à Modène. La course auto est impitoyable à l'époque. Elle ne tolère aucun compromis, aucun contournement. Dévie de ta trajectoire un tant soit peu et tu seras cueilli comme un blé d'été. On estime que Castellotti, victime d'une sortie de piste, a été projeté à plus de 80 mètres du sol. Il n'avait aucune chance. Les deux pauvres jeunes hommes ne sont hélas pas les seules victimes de leur bolide, loin de là. Rien qu'en Formule 1, 35 pilotes ont trouvé la mort depuis les années 50. À l'issue de l'enquête, Ferrari peut souffler. Pour autant, les ennuis du Commandatore sont loin d'être terminés. Les comptes sont toujours dangereusement déficitaires et le coût des dégâts occasionnés par la course a creusé le trou à combler. Ferrari va devoir trouver des apports extérieurs. Ford se montre pour le moins intéressé, voire insistant. Mais Laura doit autoriser les démarches. Démarre alors pour Enzo une bataille bien plus difficile que les 24 heures du Mans, celle de se faire pardonner par son épouse. 1963. Depuis plusieurs années, le futur de Ferrari se joue en coulisses. Enzo, lunettes noires sur le nez, attend impatiemment l'arrivée des dignitaires de Ford. Les deux marques vont s'associer. Du moins, tout le laisse penser. L'accord est écrit. Il ne manque que les signatures. Ou presque. Alors que toutes les parties prenantes sont persuadées qu'un accord va être signé aujourd'hui, Ferrari va prendre tout le monde de court. Enzo ne laisse même pas le temps à Ford de s'installer. En quelques mots, le visage froid, livide, il annonce la fin des négociations. Comme ça, alors que tout était ficelé et que la firme américaine allait injecter des millions de dollars contre une partie du capital, la plupart de celui-ci pour être honnête. C'est un coup de folie. Les têtes dirigeantes de Ford sont tellement abasourdies qu'elles demandent à Enzo de répéter ce qu'il vient de dire. Mot pour mot. Ce dernier leur annonce la même sentence, fin de la négociation. Une chape de plomb tombe sur Maranello. Certains des conseillers de Ferrari, à voir leur tête, ne sont pas au courant de la décision du boss. Ils sont eux aussi estomaqués. Les Américains ne tardent pas à claquer la porte aussi interloqués qu'en rogne. J'aurai votre peau, Ferrari. Rendez-vous sur la piste. Mais Enzo s'en fiche. Il a déjà congédié ses invités qui repartent avec leur argent dans leur valise. Avec leur contrat non signé aussi. Sans leur répondre, le commandatore ne peut se retenir de penser. C'est ce qu'on verra, ouais. Les Américains sont toujours plus malins que tout le monde. Mais pourquoi ? Pourquoi diable Ferrari fait-il capoter un deal qui aurait pu sauver son entreprise ? Eh bien, tout simplement, parce qu'il a un autre plan. Il n'a jamais voulu confier les clés de son bébé à des étrangers. C'est Fiat qui, après plusieurs années de négociations, va finalement rafler la mise en 1969, au prix d'un arrangement basé autour de sommes énormes. Je vous passe les détails pour ne retenir que le principal. Ferrari est sauvé. Laura, de son côté, s'est résolue à donner son accord à son mari sans faire d'histoire, en imposant une seule condition, en rapport avec la double vie d'Enzo. Le petit Pierrot ne pourra pas devenir un Ferrari. Du moins, pas tant qu'elle sera en vie. Ces deux accords, l'un professionnel, l'autre personnel, permettent à Ferrari de se tirer par le haut de longues années de galère. Je vous laisse imaginer le soulagement. Là, l'horizon de Ferrari se dégage enfin. Et le vœu de Laura sera respecté. Le petit Pierrot va rester un lardi durant toute sa jeunesse. Il va suivre des études d'ingénieur, comme son demi-frère précocement décédé. Sa mère et lui iront même s'installer à Modène, au plus près du poumon du clan. La femme d'Enzo mourra avant lui, en 1978. C'est à ce moment seulement que tous apprendront ce qui n'est pour la ville de Modène et les proches du clan qu'un secret de polichinelle. Aux yeux du monde, cependant, Pierrot devient un Ferrari à part entière. Dès 1969, cependant, l'accord entre Fiat et Enzo lui permettait d'être inscrit à hauteur de 10% dans le capital de la firme, loin d'être anodin. Pierrot est âgé de 78 ans et vit dans la résidence paternelle à Modène. Très fier de cet héritage, il est le vice-président de l'entreprise à ce jour. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle se porte bien. Depuis la mort d'Enzo, Ferrari a connu de grands succès. 249 victoires en Formule 1, avant l'ouverture de la saison 2025. Un record. 11 victoires au Mans. Les cloches à Maranello n'ont pas fini de sonner, car oui, à chaque victoire du cheval cabré, les cloches tintent dans toute la vallée. Signe, s'il le fallait encore, que Ferrari est certainement l'écurie la plus connue, celle avec l'aura la plus forte aussi, de tous les temps. Il n'y a qu'à voir le calibre de ses champions récents. Prost, Schumacher, évidemment. Raikkonen, Alonso, Vettel et même en 2025, un certain Lewis Hamilton. De son département course. Mais celui qui ne s'intéressait pas trop aux ventes de ses véhicules d'usine serait pourtant heureux de savoir qu'il n'aurait plus de soucis de trésorerie aujourd'hui. Et pour cause. En 2022, Ferrari a vendu, tenez-vous bien, 13 221 voitures, soit 2000 de plus que l'année précédente, explosant un chiffre d'affaires, dépassant les 5 milliards d'euros. À titre de comparaison, en 1956, Enzo avait vendu 98 autos. Autre monde, autre époque. En tous les cas, le cheval cabré ne connaît pas la crise. Et sa renommée, glanée derrière les verres opaques de son fondateur, ne s'est pas tarie non plus. Et Ford alors ? Les Américains se sont vengés de leur déconvenu ? La réponse est oui. Et ils n'y sont pas allés de main morte. Ford décida de lancer en guise de représailles le programme de la future GT40, qui écrasa la concurrence sur les circuits d'endurance, y compris au Mans, où Enzo pourtant aimait à régner en maître. Enzo Ferrari meurt en 1988 et laisse derrière lui un vide immense. Laura est décédée 10 ans plus tôt, on l'a dit. Le Commandator s'éteint alors que la saison de Formule 1 en cours affiche la suprématie éclatante d'une écurie concurrente, McLaren. C'est bien simple. Les Anglais ont gagné toutes les courses, mais un mois après le décès du patron, la Formule 1 retrouve le circuit de Monza, jardin de Ferrari depuis toujours. Performance incroyable. En hommage à Enzo, les deux pilotes de l'écurie, Berger et Alboreto, jusqu'alors aux fraises, réalisent un incroyable et improbable doublé. C'est la seule course de la saison qui ne sera pas remportée par McLaren. Tout un symbole et tout un hommage. Et en parlant de symbole, nous sommes le 12 mai 1957, lors des fameuses Mille Miglia. C'est le dernier arrêt des véhicules avant l'arrivée de la course. De Portaggio est attendu par sa petite amie, l'actrice mexicaine Linda Cristian. Avant de repartir, le pilote embrasse sa dulcinée. Quelques kilomètres plus loin, il se crache, fauché par la mort, après une malheureuse crevaison. Mais la photo a survécu à l'épreuve du temps. Elle est devenue iconique, portant même le nom terrible de baiser de la mort. Elle est, à elle seule, le symbole de ce que pouvait représenter la course auto à la sortie de la guerre. Des gladiateurs modernes, des pilotes adulés, avec à leurs bras les plus jolies filles de la planète. Des bolides, savamment construits pour être les plus rapides possibles, bien souvent sans prendre en compte la moindre once de sécurité. Et la mort, toujours ou presque, au bout du chemin, guettant le passage des monstrueuses carlingues lancées à pleine vitesse. La faucheuse, en ce temps-là, n'avait qu'à se servir.